J'ai un joueur pour vous. Le meilleur joueur du monde.
Ah bon, encore un.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent sur Radio B. Vous écoutez les vrais amateurs du foot. Une chronique où nous parlerons de sport, mais plus particulièrement de foot. Mais attention, pas n'importe lequel, celui où tout commence, celui où les rêves débutent. Le foot amateur. Le but de ce rendez-vous est de donner la parole aux différents acteurs de ce sport de notre département. Allant du simple dirigeant jusqu'au président, en passant par les joueurs, éducateurs ou encore les arbitres, vous saurez tout sur leurs différents rôles. Mais aussi, cela permettra de mettre en lumière leurs associations ou clubs de foot qui composent notre département. Allez, go !
Aujourd'hui, pour ce quatrième rendez-vous des vrais amateurs du foot, nous partons à la découverte du club de l'Essor-Bresse-Saône. Il y a une trentaine d'années déjà, en 1990 pour être précis, quatre clubs voisins situés dans la partie nord-ouest du département décident de s'associer et de créer un seul et même club à destination des jeunes. Ces quatre clubs ne sont autres que l'AS Bazier-Châtel, le FC Manzia, l'US Replonge et l'US Feillant. Des clubs qui sont toujours présents actuellement sur la scène locale, voire même régionale, dans les catégories seniors. Ce club de l'Essor-Bresse-Saône prend effet uniquement pour les catégories jeunes, garçons allant de U13 au U18 pour le foot féminin où toutes les catégories sont représentées, des U7 aux seniors. Les catégories U7 à U11 garçons restant à la charge des quatre clubs fondateurs. En chiffres, l'Essor-Bresse-Saône, c'est 325 licenciés qui, je le rappelle, sont uniquement axés sur les jeunes et le foot féminin. Toutes les catégories pouvant évoluer au niveau régional l'ont fait à un moment donné et c'est encore le cas aujourd'hui pour les U15 et les U16. Pour ces quatre clubs précédemment cités, l'avantage d'Essor-Bresse-Saône, c'est que celui-ci, comme son nom l'indique, va permettre de former un maximum de leurs jeunes joueurs ou joueuses dans de bonnes conditions, et ce à des niveaux de pratique attrayants, adaptés et plus qu'acceptables. Notamment grâce aux infrastructures mises à disposition par les quatre clubs à l'initiative de ce projet, mais aussi grâce à des dirigeants dévoués et un encadrement de qualité. Dans l'émission du jour, par l'intermédiaire d'Alexandre Vernoux, responsable de la catégorie U18 de l'Essor-Bresse-Saône, nous découvrirons les coulisses de sa saison qui, même pas à la moitié, a déjà procuré beaucoup d'émotions.
Vous écoutez les vrais amateurs du foot sur Radio B.
Bonjour Alexandre, dans un premier temps je vais te laisser te présenter.
Bonjour, Alexandre Vernoux, 43 ans, coach U18 à l'EBS pour ma troisième saison. Donc moi, j'ai pratiqué le foot depuis mes 6-7 ans sur le club de Montrevel-en-Bresse. Après, je suis parti sur Perona, maintenant le FBBP 01. Après, je suis parti sur Marbeau, dizaine d'années en pratique de foot au niveau régional. Et après, j'ai fini ma carrière de footballeur sur Feillant, le club de Feillant.
Depuis quand as-tu commencé ton cursus d'éducateur dans le foot ?
Mon cursus a commencé il y a déjà une dizaine d'années en tant que coach sur les catégories jeunes. Après, j'ai passé donc plusieurs formations. J'ai fait l'I1 et récemment le CFF3. Et donc là, ça fait bien une dizaine d'années que je coach maintenant.
Et tu es arrivé, ça fait combien de temps que tu es allé sur Bresse-Saône ?
Actuellement, là, c'est ma troisième saison, en espérant qu'elle aille au bout, celle-ci.
Oui, donc troisième saison où tu encadres l'équipe U18, c'est ça ?
Ouais, ça, donc ça fait ma troisième année en tant que responsable de la catégorie 18 et en charge de l'équipe 1, ouais.
Donc la catégorie 18, elle est composée de combien d'équipes et combien de joueurs à peu près ?
Donc en tout, en U18, on a 3 équipes pour 80 joueurs.
Donc les 3 équipes évoluent au niveau départemental et dedans il y a une équipe U16, je crois ?
Voilà, c'est ça. Les 3 U18 sont en région, en district, pardon, et l'équipe U16 est en R2 actuellement, ouais, c'est ça.
Je suppose que tu n'es pas tout seul, tu es accompagné notamment sur le groupe 1, que ce soit en séance ou en match.
Donc, oui, moi je suis accompagné de Nicolas Boucher qui est à l'EBS pour sa deuxième saison. Et c'est pareil, c'est un local on va dire et puis qui est bien investi dans le foot. Donc c'est un bon accompagnateur pour moi, une bonne aide.
Vous vous entraînez combien de fois par semaine avec cette catégorie U18 ?
Cette catégorie, donc on a 3 entraînements pour le groupe 1. Les jours du lundi, mercredi et jeudi, voilà. Donc, et après, foot, plus loisir pour l'équipe, toi, quoi. Au moins 2 entraînements, c'est déjà bien.
Et étant donné que l'Essor-Bresse-Saône est une fusion de plusieurs communes, vous vous entraînez jamais au même endroit ?
Non, les sites d'entraînement changent beaucoup. Donc c'est toute une organisation. On remet ici tous les clubs support. Donc le lundi, on est sur les sites de Bagé et Replonge. Le mercredi, nous sommes à Bagé et le jeudi, on a Feillant ou Replonge et donc le synthétique de Replonge en ces périodes qui sont un grand appui.
Oui, j'imagine. Quels ont été les objectifs que vous êtes mis en début de saison, que ce soit avec les dirigeants du club ou même avec les joueurs?
Les objectifs, bon, pour le groupe 1, déjà c'est la D1. Voilà, donc ça, c'est l'objectif premier. Et par la suite, ne pas se mettre de limite, pourquoi pas viser la montée en R2, puisqu'on est une des dernières équipes de l'EBS à ne pas l'être actuellement.
Vincent reçoit les vrais amateurs du foot sur Radio B.
Maintenant qu'on sait un peu plus sur la catégorie 18 de l'Essor-Bressonne, venons-en au fait, à savoir votre parcours en Coupe Gambardella. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quoi consiste cette Coupe Gambardella ?
Donc la Coupe Gambardella, c'est la Coupe de France pour les jeunes. Donc elle est répartie sur 2 années, puisqu'il n'y a que les U16, U17 qui peuvent participer à cette Coupe. Et c'est l'occasion de faire plein de matchs de Coupe et d'aller le plus loin qu'on peut, quoi, en fait, et rencontrer des équipes inhabituelles.
Donc c'est un peu à l'image des seniors qu'on a vu sur la précédente émission. Le monde amateur qui rencontre le monde professionnel, même si la route est longue pour affronter ce genre d'équipe, mais tu as réussi à le faire cette année, on en parlera tout à l'heure. Quel a été ton parcours, justement, enfin votre parcours en Gambardella? Quel club vous avez affronté, les résultats, comment ça s'est passé?
Donc cette saison, on est arrivé en finale régionale, donc le 6e tour. Sur le premier tour, nous avons gagné par forfait. Sur le deuxième, nous avons éliminé l'équipe de Viria de R2. Sur le troisième tour, c'est l'équipe de Lagneux, une équipe district. Le quatrième tour, une autre équipe de R2, un sud. Et par la suite, le cinquième, Bourgoin, qui est une équipe de R1. Et après, nous avons perdu contre l'équipe du GF38, qui est une équipe de R1 également.
Donc si vous seriez passé sur ce tour, vous seriez passé au niveau national, c'est ça?
Voilà, c'est ça, c'est le premier tour fédéral, donc au fil du temps, c'était plus au jeu, pourquoi on s'est mis à croire à cette hypothèse, donc voilà, c'était ça, c'est le tour national après.
Quel a été pour toi, dans tous les matchs que tu m'as cités, le match le plus compliqué que vous avez eu à jouer?
Il y en a eu plusieurs, puisque bon, c'est beaucoup de bonnes équipes, mais celui que je vais garder en mémoire, c'est Bourgoin, car c'est face à cette équipe qu'on a concédé beaucoup le plus d'occasions, pardon, et qui a été le plus compliqué à jouer, avec une équipe très bien en place qui jouait un football rapide et qui nous a mis beaucoup en difficulté.
Et toi, en tant qu'éducateur, comment tu abordes ce genre de match? Alors, tout laisse à penser que pour trouver la motivation, c'est assez facile, mais comment tu abordes ce genre de match avec les joueurs?
Alors moi, en tant qu'éducateur, comme tu l'as dit, la motivation est facile à leur transmettre, parce qu'ils attendent ça, et plus les matchs avancent, plus les tours défilent, plus la motivation est facile à acquérir. Et en tant qu'éducateur, c'est peut-être aussi la gérer, pour pas que ça parte dans tous les sens, mais c'est s'appuyer là-dessus, et puis créer de l'engouement autour de ça, quoi. Voilà, donc, et moi, j'ai aussi travaillé sur mon vécu en tant que joueur.
Et sur tes préparations de match, donc l'aspect motivationnel, comme tu l'as dit, est facile à trouver. Mais est-ce que tu arrivais encore à pousser un peu plus le curseur, ou est-ce que tu trouvais d'autres leviers pour vraiment faire ces performances que tu as faites au final?
Alors oui, je pense qu'on en a trouvé certaines. Moi, je suis assez pointilleux, donc je vais toujours essayer d'améliorer même mes causeries pour apporter un plus aux joueurs. Et après, j'ai envie de dire, il y a plusieurs leviers. Ça dépend beaucoup du ressenti de chaque coach. Ça peut être les infos sur chaque équipe, une petite causerie, une image qui va leur donner un plus, quoi.
La notion de choix, elle est importante quand on est éducateur, mais encore plus quand on fait des matchs à enjeu et puis si intéressant à jouer pour eux. Comment ça s'est passé, cette notion de choix pour les joueurs?
Alors la notion de choix, comme tu l'as dit, elle est compliquée, parce que sur les groupes de 16, 18 joueurs, et on peut en mettre que 14 malgré tout, même que ce soit une coupe. Il faut choisir en son âme et conscience et puis estimer la meilleure équipe, quoi. Donc c'est pas toujours simple, il faut choisir, voilà, et faire et que ce soit compréhensible pour tout le monde.
Il faut être capable de mettre l'affect du côté, je pense que c'est dur quand même malgré tout, surtout dans un club comme EBS où c'est assez familial et plutôt bon enfant, et au final ça doit être compliqué de faire ça.
Oui, c'est ça le plus compliqué, c'est mettre le côté paternel, entre guillemets, de côté pour vraiment optimiser l'équipe. Et ça, c'est très dur, c'est très dur.
Et justement, ces joueurs qui sont, je pense, frustrés de ne pas jouer ce genre de match, hein, donc Bourgoin, Grenoble, est-ce que tu t'en occupes? Comment ça marche? Tu les laisses un peu tout seuls et puis tu les vois après? Enfin, comment tu fonctionnes?
Pour gérer ça, moi, ce que j'ai fait cette année, c'est les joueurs non sélectionnés dans les 14. Moi, je les ai conviés aux causeries d'avant-match, au rassemblement, à eux. Après, ils étaient libres, suivant leur état psychologique, contents. Donc, la plupart sont venus. Mais voilà, après, par la suite, moi, je laisse passer le match. On en discute après, en début de semaine, la semaine d'après, pour éclaircir si le joueur en a besoin ou pas, quoi. Mais c'est vrai qu'avec le temps est plutôt court pour tout gérer parfaitement, quoi.
Et par rapport à tous ces matchs que tu as fait, quel a été pour toi le meilleur souvenir de la compétition?
Alors, je dirais un peu la phrase bateau, il y en a énormément, mais si je dois en choisir, non, ce sera deux quand même. C'est l'égalisation à 10 minutes de la fin contre Bourgoin et la série de pénaltys où tout ça s'est enchaîné en peut-être une demi-heure. Et là, c'est une explosion d'émotions, quoi, de bonnes émotions. Et après, bien sûr, malgré la défaite, le match à domicile contre Grenoble où il y avait autour de 700-750 personnes et ça a été une vraie communion avec tout le monde, un immense plaisir.
Donc, contre Grenoble, vous avez perdu 2-0, c'est ça?
Non, 3-1. Pardon, c'est pas grave. Donc, on est mené 1-0, on est mené 2-0. Et là, pareil, ces gamins ont un truc quand même de très fort. Même mené 2-0 face à cette équipe, on revient à 2-1, on touche un poteau derrière. Et après, bon, à la 90e, on prend le troisième but. Mais voilà, l'histoire s'arrête comme ça. On aura un petit regret quand même sur ce quart d'heure de folie où on aurait pu renverser l'affaire.
Ça aurait été exceptionnel.
Ah, ça aurait été, je sais pas les mots, là.
Effectivement, et du coup, est-ce que le retour à la compétition normale par rapport à ce qu'on disait en début d'interview, à savoir votre ambition d'évoluer au plus haut niveau départemental, ça a été compliqué de remotiver les joueurs, etc.
Alors, l'entre-deux tours, oui, le retour au championnat était un peu plus compliqué. Une fois la coupe passée, moi j'ai trouvé quand même les U18 très investis dans l'objectif de D1 et on a pu enchaîner le bon résultat tout de suite.
D'accord. Merci Alexandre pour toutes ces réponses. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de saison à toi et ton club de l'Essor-Brest-Saône. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, en espérant que la saison puisse aller à son terme au vu du contexte sanitaire.
Dans ce milieu, il y a deux catégories de l'ASCAR.
Il y a les pros et il y a les vrais amateurs du foot sur Radio B.
Je vous l'avais dit, à peine à la moitié de la saison et les émotions sont déjà bien présentes. Ce club de l'Essor-Brest-Saône n'est pas à son coup d'essai dans cette compétition qu'est la Coupe Gambardella. Le parcours d'Alexandre et sa troupe est le quatrième plus beau parcours du club depuis sa création en 1990. En effet, lors des saisons 2004-2005 et 2011-2012, Essor-Brest-Saône avait échoué au 7e tour contre respectivement Louhans-Cuiseaux et Champagnole. Le 7e tour correspond au premier tour fédéral, celui qui permet d'affronter des équipes situées dans toute l'Hexagone. Car jusqu'au 7e tour, les tirages sont géolocalisés afin de limiter les longs déplacements. Mais ce n'est pas le record. Car lors de la saison 2015-2016, alors que l'AS Monaco allait gagner la compétition avec dans ses rangs un certain Kylian Mbappé, les protégés de Johan Aliki, coach de l'équipe U18 de l'Essor-Brest-Saône à l'époque, avaient eux échoué en 16e de finale contre le FC Sochaux-Montbéliard, club tenant du titre. Un échec pas ridicule du tout, car il s'était incliné sur le score de 4-2. Imaginez un peu, Essor-Brest-Saône a fait partie des 32 meilleures équipes de la compétition cette année-là. Pas étonnant que cette rencontre avait réuni pas moins de 1500 spectateurs autour du stade de Bagel-Châtel. Un souvenir inoubliable pour tous les acteurs du jour, mais aussi pour tous les sympathisants du club de l'Essor-Brest-Saône. Ces différents souvenirs mettent en exergue toutes les qualités de ce club qui réussit à mettre de côté les éventuelles querelles de clochers pour laisser place à un objectif commun, l'accès à la pratique du foot pour les jeunes. Et comme on le dit, nous avons les souvenirs que nous méritons.
Voilà, c'est la fin du match pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle chronique avec les vrais amateurs du foot. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez jamais que ce sont des professionnels qui ont construit le Titanic et des amateurs l'Arche de Noé. Merci les vrais amateurs du foot.